Bonjour tout le monde. Voilà, donc comme certains savent, j'ai passé 10 jours à Madagascar. Donc je suis revenu vendredi. Et vous avez le bonjour de l'église de la capitale, une des églises de la capitale, donc où prêche mon beau-père, le pasteur Miara. Et c'était assez attenant et intense. Hein. On s'est réunis le dimanche. Et vous savez, il loue une école. Il y a 4 salles, grandes salles. Les 4 grandes salles sont louées par des églises. Donc vous arrivez, il y a une église, il ne faut pas se tromper d'église. Il y a plusieurs églises. Et vous avancez dans Madagascar, il y a des églises un peu partout. Ça pousse tout le temps. Et une petite anecdote, c'est qu'une fois, il y avait une grosse affiche, une énorme affiche lumineuse, je l'ai raconté vendredi, mais il y avait cette question qui a d'un seul coup est apparue. Est-ce que votre nom est inscrit au ciel ? Et c'est une église, hein, ce qu'il a sûrement diffusé, mais ça permettait de témoigner parce que les gens se posent des questions. Et ce qui est intéressant à Madagascar, c'est que la foi est vraiment parlée tout le temps. Mais il y a la controverse, c'est qu'il y a aussi l'erreur est toujours aussi ouvert tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux docteurs et il y a la parole qui est au milieu. Et c'est un petit peu comme ça quand j'ai vu Madagascar, c'est beaucoup de faux docteurs, des superstars pasteurs, on va dire, là-bas. Et certains aussi qui sont toujours ancrés dans la parole et j'étais très content. Parce que justement, voilà, l'église où on ouvre la Bible. Et à un moment donné, ils ont partagé lors de la scène sur 1 Corinthiens. Et je me rends compte qu'on partage la même chose. Et pourtant, on n'a pas discuté, mais la Bible, elle est la même, partout. Et quand on veut vraiment se plonger dedans, on ne va pas sortir autre chose que ce qui est écrit. Mais quand on veut ramener une idée pour attirer des foules, pour gagner je ne sais quoi, on trouvera toujours aussi autre chose à dire. Et c'est un petit peu ça, les faux docteurs. Et c'est un petit peu ça quand nous lisons ce livre de 1 Corinthiens, eh bien, de se garder, de glisser dans ce côté où eh bien, on essaie de ramener autre chose, un peu comme ces Corinthiens qui ramenaient des choses de l'extérieur à l'intérieur, eh bien, pour faire plaisir aux hommes. Et lorsque nous retrouvons dans cette première lettre aux Corinthiens, justement, nous n'imaginons pas toujours que ces Corinthiens n'avaient que cette lettre et non pas toujours tout le Nouveau Testament. C'est vrai, nous sommes là avec le Nouveau Testament et on a tout, mais eux, ils ont reçu une lettre. Et avec cette lettre, Paul venait régler un problème qui était un problème apparent. Nous avons l'habitude dans nos Bibles de parfois lire en diagonale. Parfois on dit, je cherche un verset qui me plaît, qui correspond à ce que je pense, et puis on cherche et puis on le trouve. Et on pense que c'est celui qui correspond à notre situation. Mais lorsque cette lettre a été écrite, elle avait pour but d'exposer la situation des lecteurs ainsi que de leur donner la solution précise à leurs problèmes. Et c'est l'apôtre Paul qui va le donner, c'est sa mission. Tout comme nous allons chez le docteur pour connaître notre maladie et obtenir le bon médicament, nous ne pouvons pas non plus nous diagnostiquer nous-mêmes et choisir le médicament qui nous plaît. C'est pour ça que la parole est là, elle nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Alors nous avons depuis profité, comme les Corinthiens, du bénéfice de ce diagnostic et des solutions que l'Esprit donne par la plume de Paul. En effet, nous pouvons obtenir les bénédictions qu'apporte la mise en pratique de cette lettre en gardant un enseignement suivi, permettant d'exposer toutes les instructions apportées par cette lettre. Nous avons un avantage lorsque nous prêchons entièrement la Bible, quand nous prêchons pas entièrement un texte, et que nous apprenons aussi à nous soumettre à la parole telle qu'elle est écrite. On ne peut pas sauter des pages et dire « Ah ben ça, je ne vais pas enseigner », et choisir le thème que l'on voudrait. On choisit ni le sujet qui nous intéresse, mais on doit se soumettre autant le prédicateur que les auditeurs. Et c'est la parole elle-même qui nous impose afin que tout le conseil de Dieu puisse être exposé sans rien cacher. Et c'est l'avantage que nous avons. Et quand je vois ces églises, je sais qu'à Fréjus, ils font pareil. Ben, à Madagascar, ils faisaient pareil. Et puis je le vois même à Bordeaux, ils font pareil. Et on voit vraiment l'église qui grandit en puissant quoi ? En puisant dans toute la parole de Dieu. Et c'est aussi ce que nous faisons dans toutes nos réunions. Vous avez la réunion de couple, on suit un livre, la Genèse. Le jeudi, vous suivez un autre livre, la Genèse, de sorte que vous passez toutes choses. Dans les cellules, nous avons étudié Romains, Jacques, 2 Timothée, maintenant Hébreux. Chez les jeunes, on a étudié Éphésiens, Colossiens, maintenant nous sommes dans 1 Pierre. Chez les adolescents, nous sommes dans Proverbes. Et à chaque fois que l'on sort dedans, on se dit, mais on redécouvre des choses dans la parole et on ressort ce qui était clairement énoncé. C'est ça la richesse de la parole. Et quand vous voyez que d'autres églises le font, vous discutez, on voit qu'on parle de la même chose. Mais parfois, j'ai discuté là-bas à Madagascar avec des personnes qui décidaient d'enseigner des choses qu'ils voulaient et on n'avait pas la même discussion. On ne parlait pas de la même chose. Et pourtant, ils avaient ce livre aussi. Mais on parlait beaucoup de religion, on parlait beaucoup de, comment dirais-je ça, de répétition. Hein, vous savez, j'avais quelqu'un dans ma famille, ils lisent la Bible tous les jours avant de manger. Mais pour autant, dans leur vie, il n'y a rien qui est mis en pratique. Et quand on parle du salut de Dieu tel que c'est écrit dedans, ils ne comprennent pas. Et pourtant, tous les jours, ils sont plongés où ? À lire ce qui est écrit, cherchant des morceaux qui leur plaisent. Mais nous avons un avantage. C'est pour ça que vraiment, je vous invite toujours à continuer à lire même la Bible en continu chez vous. Prenez le temps de lire du début à la fin. Toutes choses. Car les lettres ont été écrites ainsi. Quand Paul a envoyé la lettre aux Corinthiens, il ne les a pas envoyées par petits bouts. Ou il n'a pas envoyé des petits bouts en disant « Attendez, il faut attendre celui de Philippiens pour comprendre Corinthiens, attendre celui de Pierre. » Non. Chaque lettre a vraiment un message important. Et c'est ce que nous tentons d'exposer même le dimanche matin. On va remettre justement ce message à la parole de Dieu. On va prier. On va remettre la parole de Dieu à celui qui l'a donné, à notre Père. Seigneur, nous voulons te remercier tout simplement parce que c'est un privilège effectivement que d'avoir toutes ces lettres, que d'avoir, Seigneur, dans toutes ces lettres, de voir ton amour, de voir cette sainteté que tu destines pour nous, Seigneur, de voir ce salut merveilleux qui peut s'opérer dans nos vies, de voir que cela est vrai partout, partout où chacun veut plonger dans ses paroles et la suivre, obéir. Merci, Seigneur, pour cette délivrance, merci, Seigneur, pour ce repos qui n'est plus de chercher une solution, mais simplement de prendre ta solution, d'accepter, Seigneur, tes mots, d'accepter, Seigneur, ta vie, une vie nouvelle, que nous n'avions pas, mais que tu nous donnes gratuitement. Merci, Seigneur, pour notre Église, merci parce que ce fondement, Jésus-Christ, Christ crucifié, existe, il est là, il est présent. Et Seigneur, nous voulons simplement que ça soit une réalité chaque jour dans notre vie. Nous voulons pouvoir grandir dans cette parole. Nous pouvons, Seigneur, par toi, par ton esprit, le faire. Voilà pourquoi, Seigneur, toute la louange te revient. Et Seigneur, nous te prions qu'aujourd'hui encore nos cœurs soient prêts à être changés, transformés, selon toi, selon ta volonté, selon ce que tu as prévu pour nous. Car Seigneur, c'est toi qui prépares toutes choses. Tu aplanis le sentier, Seigneur, et je te prie vraiment que nos cœurs soient des sentiers, Seigneur, où ta parole puisse avancer et que nous puissions, Seigneur, te découvrir encore chaque jour. Merci, Seigneur, en tout cas pour cette journée, pour ce culte que nous avons, pour chaque personne présente. Bénis chaque personne ici, Seigneur, ceux qui n'ont pu venir aussi. Garde les cœurs, Seigneur, et que toute la gloire te revienne dans cette Église et dans tous ceux qui invoquent ton nom. Sanctifie cette prière. Amen. Alors, pour le dimanche matin, nous avons choisi, depuis des mois déjà, cette épître avec un but simple, d'obéir à une exhortation, on peut revenir, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Il a un but précis, ce livre, pour régler un problème précis. Il nous dit « Je vous supplie ». Donc c'est vraiment quelque chose qu'il insiste. « Frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Pourquoi ? Au verset 11, il y a un problème. Quel est le problème ? « En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. » Donc la raison de cette lettre, c'est quoi ? C'est d'amener tout le monde à l'unité. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette lettre, à la fin de cet enseignement, tous ceux qui auront écouté devraient se dire et travailler pourquoi ? Pour marcher d'un seul esprit. Marcher en unité. Et il ne s'agit pas d'être unis dans une personne, mais dans un même esprit, dit le verset 10. Non pas le sentiment d'une personne qui serait plus charismatique que les autres dans l'Église, un Paul, un Pierre, un Apollos, mais les sentiments de celui qui nous a donné son esprit, les sentiments de Christ. Christ voulant réconcilier tout ce qui est sur la terre et au ciel avec le Père, avec lui-même. Et nous devrions refléter cette même attitude dans toute l'Assemblée. La solution pour une Église unie, c'est que tous soient en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la tête. Agissant, chacun selon la volonté du chef. On l'a vu la dernière fois, imitant le chef qui est Christ. L'Église, le corps, ne doit être édifié que comme il le dit ici, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car là où son nom est prononcé, dans tout lieu où son nom est invoqué, nous devrions voir des progrès dans ces choses qui sont évidentes et qui sont inscrites ici. Un même langage, pas de division, un même esprit, un même sentiment, une union parfaite. C'est ça le progrès d'une Église qui marche en Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la communion fraternelle, mais c'est ce que nous vivons aussi avec le Père et le Fils, une communion avec Dieu. Et la preuve qu'il y a communion, eh bien, c'est quand nous progressons dans l'unité, en sainteté, en travaillant dans l'amour, nous éloignons du mal et recherchons l'intérêt des autres. C'est ce que nous avons déjà vu. En effet, la communion avec le Père et le Fils dans une Église n'est possible que si nous cherchons l'intérêt des autres avant le nôtre. Et comment faire ? Paul montre l'exemple. Il nous a expliqué comment nous dépouiller. Exemple qu'il a pris de son maître, Jésus-Christ, qui est aussi le nôtre et qui devrait être notre exemple. La vie dont il témoigne, dont Paul témoigne, n'est vraie que parce que ses pensées sont en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié seul. Sagesse unique pour sa vie, sagesse unique avec laquelle il marche dans sa vie et sagesse unique qu'il prêche. C'est son évangile. Beaucoup de gens parlent de Jésus-Christ, c'est ce que je vous disais à Madagascar, mais combien changent d'attitude pour vivre selon la pensée de Christ ? C'est une chose de parler, c'est autre chose d'être transformé. Les Corinthiens jugeaient les prédicateurs, mais aussi ceux qui ne pensaient pas comme eux. Cependant, leur vie ne changeait pas. Ils laissaient même le péché croître au milieu d'eux. Ils ont oublié que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons quoi ? Lavés de nos péchés, sanctifiés, justifiés, pour que nos pensées soient changées, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Est-ce que ce n'est pas ça le salut ? C'est notre salut. Une nouvelle vie dans l'obéissance à un nouveau maître. Jésus-Christ. Laissant derrière nous la vie à la corinthienne, faisant mourir les attitudes qui sont du monde et qui détruisent l'homme, la jalousie, l'envie, la colère, l'amertume, les rivalités, et c'était le problème des Corinthiens. Ils avaient quoi ? Des rivalités. Si l'on n'a pas encore saisi ce sentiment qui est de marcher dans l'amour, l'attitude qui édifie, la vraie connaissance de Dieu, si on n'a pas reçu cet amour et ne le vivons pas, peu importe la doctrine qui sortira de notre bouche, nous ne serons jamais dans la vérité. On peut lire un passage dans Éphésiens 4, versets 15 et 16, qui est un peu un parallèle de ce que nous allons apporter aujourd'hui comme message. Éphésiens chapitre 4, versets 15 à 16, qui nous dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Vous voyez comment grandit une église ? En professant quoi ? En disant quoi ? La vérité. Mais comment ? On peut revenir au verset précédent. La vérité dans l'amour. Et la vérité ne se professe que d'une seule manière, dans l'amour. C'est pour ça que toute doctrine que vous pouvez lancer, s'il ne s'agit pas d'amener l'amour de Dieu, c'est toujours une erreur. Ça ne peut pas être vrai. Croître, implique d'annoncer la vérité dans l'amour, la parole de Dieu qui édifie et qui nous emmène toujours vers celui qui est la tête, le Christ. Et c'est à l'Église de s'édifier dans cet amour, en restant coordonné par la parole. Et en rentrant dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, donc c'est le chapitre où nous sommes maintenant, nous allons parler de ce solide assemblage, de ce corps. Plus spécialement, le terme ici, c'est activité ou force donnée à chacune des parties. Une force ou une activité qui édifie dans l'amour. Car S'il faut comprendre une chose dans ce passage, c'est que sans amour, il n'y a pas de force, il n'y a pas de don. Sans amour, ce qu'on produit n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Beaucoup de choses peuvent s'opérer, mais un vrai don, c'est une force qui s'opère manifestement par Dieu. Et on va prendre ce passage, 1 Corinthiens 12, du verset 1er jusqu'au verset 12, et on va la prendre dans la version Nouvelle Édition de Genève. Je pense que ça va être mieux parce que c'est la version que j'ai utilisée ici. Nouvelle Édition de Genève, 79, NEG 79. Merci. Prenons ensemble cette lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si on revient au premier verset, la première chose que l'on constate dans ce passage, c'est que sur ce sujet des dons spirituels, il y a de l'ignorance chez les Corinthiens. Dans leur pratique, ils avaient bien ces dons. Malgré leur connaissance de ce que c'était ces dons, il y avait de l'ignorance. Et ce que Paul nous dit, c'est que il ne veut pas qu'ils soient toujours dans quoi ? Dans l'ignorance. Donc il a quelque chose à leur faire savoir. Il veut les édifier. Mais parfois, dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il y a aussi de l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Et il y a toutes les idées, mais on va s'arrêter dans ce passage en ayant tout le contexte précédent de l'enseignement qui a été donné. Déjà, le mot ici dans le texte n'est pas directement le mot « don ». Quand vous avez le terme « don spirituel », en fait, il s'agit d'un seul mot, qui est « pneumatikos ». Peut-être que ça ne vous dit rien, mais « pneuma », c'est quand on parle du vent, ou dans le terme de la Bible, du Saint-Esprit. Et quand on vous dit « pneumatikos » ici, c'est littéralement la manifestation de l'Esprit. Donc, il ne parle pas encore de « don », il parle plutôt de cette manifestation de l'Esprit, et ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance sur la manière dont l'Esprit se manifeste. Et la relation aussi que nous avons avec l'Esprit. Donc le sujet que Paul voulait faire connaître aux Corinthiens, ce n'est pas directement le don. Le thème, ce n'est pas directement le don, mais c'est la manifestation de l'Esprit. Et on verra justement dans ce passage, d'abord chez qui l'Esprit se manifeste. Ensuite, d'où vient la manifestation de l'Esprit ? Pourquoi il se manifeste ? Quel Esprit manifestons-nous dans nos ministères ? Et où l'Esprit se manifeste-t-il ? C'est des questions dont les réponses se trouvent dans ces passages. Déjà, chez qui se manifeste ? Eh bien, l'Esprit. Le verset 2 déjà nous dit « Chez qui il ne se manifeste pas ?» Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Il commence cette phrase par « vous savez que », où le terme indique « vous avez expérimenté que », littéralement. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous connaissons tous, que nous soyons païens ou que nous soyons en Christ, parce que nous sommes tous passés par là. On est passé par quoi ? Eh bien, par cet état de païen. Et qu'est-ce qui nous conduisait ? Ce sont des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Et donc, en connaissant notre passé, on peut analyser notre ancienne manière de vivre. Préférer être à l'écoute des idoles muettes. Et ce terme « idole muette » est assez quand même marrant. Parce qu'il dit que vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Et il a rajouté le mot « muette ». Ça veut dire que ces idoles, elles ne parlent pas. Elles n'enseignent pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse entraîner. Donc elles n'ont pas besoin de parler. Et le mot selon que vous étiez conduit ici est un mot qui est très dur parce que c'est le mot qu'on conduit des animaux, comme des gens qui sont tenus en laisse. Donc ce n'est pas des gens à qui on parle, c'est des gens, viens par ici, viens par là. Et c'est la manière dont les idoles nous conduisent, des idoles muettes. Mais ces idoles muettes s'adressent à nous et nous les comprenons, sans même qu'ils parlent. C'est comme si notre corps était en symbiose avec ses idoles et même pas besoin qu'ils disent quelque chose, on sait déjà ce qu'ils veulent. C'est parce que chez nous, nous avons ce problème dont on a parlé auparavant, ce sont ces tentations, ces convoitises qui nous poussent à quoi ? À être attirés et à amorcer. Et ces idoles ne sont juste là que pour des repères, savoir que nous allons vers où ? Vers le péché, vers là où Dieu n'est pas. Car lorsque vous allez vers des idoles, vous allez toujours loin de Dieu. Et c'est le but des idoles, nous amener loin de Dieu. Il ne donne aucun nom d'idole. On aurait pu être en Grèce, il aurait pu donner plein de noms d'idoles, c'est pas ce qui manque là-bas. Mais c'est peut-être parce que c'est à nous d'indiquer dans notre vie quelles sont nos idoles muettes. Ils n'ont pas besoin de parler. Mais elles prennent beaucoup de place et il suffit juste qu'elles se présentent et nous sommes là en train de nous dire « j'ai peut-être envie d'aller là-bas ». Pas besoin de donner un nom. Vous savez que. Parce que nous connaissons tous quelles sont nos idoles muettes. Nous savons ce qui nous attire. Nous l'avons déjà expérimenté. Et nous en avons été délivrés. Mais parfois, il n'empêche que nous sommes attirés. Et lorsque nous sommes attirés, lorsque nous nous sommes conduits vers ces idoles, il y a une chose qui est certaine, c'est que si nous comportons comme des païens, l'esprit ne se manifestera pas. Parce que nous ne sommes pas conduits par l'esprit, mais conduits par quoi ? Par nos convoitises, dirigées vers des idoles muettes. Avez-vous reconnu que ces idoles muettes sont maintenant du passé ? Ou est-ce que peut-être vous vous dites encore aujourd'hui, mais je n'ai que ça, et ces choses m'attirent dans la vie ? J'espère que votre vie d'aujourd'hui, ce ne sont plus les idoles muettes qui m'attirent, mais c'est le Seigneur. C'est sa volonté. Ne nous laissons pas entraîner par ces idoles. Elles n'ont jamais donné aucun commandement, mais nous les suivons. Ont-elles besoin de nous reprendre, de nous corriger, pour nous exhorter, et de nous exhorter pour qu'on vienne à elles ? Jamais. Mais la parole de Dieu, elle fait tout cela. Elle nous donne des commandements, elle nous reprend, elle nous corrige, elle nous exhorte pour que nous nous éloignions de quoi ? Eh bien, de ces idoles. Des idoles à faune, des maîtres qui n'ont pas besoin de nous convaincre, mais nous nous entraînons derrière pour les suivre. La solution que nous donne la parole pour sortir de cet esclavage, de ces idoles, se trouve au verset suivant. On va lire la fin du verset qui nous dit d'abord « Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Il y a deux maîtres. Il y a les idoles muettes, un groupe, et il y a un autre Seigneur dont il est parlé ici, c'est Jésus. Et lui, quand il nous dirige, c'est par le Saint-Esprit. Et si nous nous soumettons à ce maître-là, il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Nous ne serons plus attirés par les idoles muettes, mais par le Saint-Esprit qui nous dirigera dans tout ce que nous ferons. Et lorsque nous regardons, il y a deux manières d'être dirigé. Celui qui était auparavant, qui parle sans l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, c'est pourquoi je vous déclare que personne s'y parle par l'Esprit de Dieu, me dit, Jésus est anathème. Le thème anathème, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est maudit. Bon, Jésus a quand même été maudit, mais il n'est pas resté maudit. Et cette personne, quand elle parle, elle dit, Jésus est anathème, il est maudit, il est mort, c'est fini. Mais nous, nous savons que le Seigneur Jésus est ressuscité et que maintenant, il règne dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Cette solution qui est donnée, c'est Jésus-Christ Seigneur, celui qui a donné la victoire sur le péché, qui était pourtant une malédiction. Il a été déclaré maudit sur le bois, mais il n'est pas resté maudit sur le bois. Il a donné victoire. Il est vainqueur de nos péchés, de ceux du monde entier. Il nous délivre de l'esclavage de ces idoles muettes. Un nouveau maître qui nous a rachetés. Si vous avez été racheté par Jésus-Christ et que vous dites que Jésus-Christ est le Seigneur, vous parlez par l'Esprit. Mais si vous dites que Jésus-Christ n'est rien et qu'il est maudit et qu'il ne peut rien pour vous, ça ne peut pas être par l'Esprit de Dieu que l'on parle ainsi. Et c'est pour ça que déjà, il y a besoin de savoir où est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on est de ceux qui ont dit « Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé, maintenant il est mon maître, mon Seigneur » ou on est de ceux qui se disent « Mais cette mort à la croix, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ma vie ?» Comme les païens. Quel païen ne sait pas que Jésus-Christ est mort à la croix ? Pour autant, ça leur sert de quoi ? Ils pensent juste que c'est quelqu'un qui est mort et qui a été maudit, le pauvre. Nous, nous savons qu'il est notre sauveur. Ceux qui ont été rachetés reconnaissent Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie. Ce n'est plus d'eux-mêmes qu'ils parlent ou agissent, mais c'est par qui ? Par le Saint-Esprit. Et c'est manifeste. Et lorsque l'on parle de dons spirituels, la manifestation de l'Esprit ne concerne que ces personnes-là. Vous n'allez pas avoir des païens qui vont avoir « Ah, l'Esprit se manifeste dans ma vie » ou des gens qui vont dire que Jésus-Christ est un anathème, que c'est un malheureux, un maudit, et que ça va se manifester dans leur vie. Il n'y a que ceux qui ont accepté de dire quoi ? Jésus-Christ est le Seigneur. Ce sont ceux qui laissent l'Esprit de Christ se manifester dans leur vie. Et cette manifestation de l'Esprit se caractérise par des dons. On peut regarder au verset suivant. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et là, le mot don, c'est vraiment le mot habituel qui est charisma. Je vous donne du grec aujourd'hui. Charisma, c'est la faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. C'est ce que ça veut dire, un don. C'est le même mot qui est utilisé par le don gratuit de Dieu. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où vous allez essayer de faire un effort pour l'obtenir. Vous ne l'aurez pas comme ça. C'est une faveur. Une faveur de celui qui le distribue, le Saint-Esprit. Et dans cette lettre aux Corinthiens, Paul avait déjà expliqué comment ces dons venaient. On peut revenir en 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 5 à 7. qui nous dit quoi ? Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible ne parle jamais du coq à l'âne. Il y a un sujet, il va l'exposer plus tard, mais depuis, il n'arrête pas de traiter ce même problème avec les mêmes solutions et de comment ça va se passer. Et qu'est-ce qu'il leur a donné ? Ils ont été comblés de la richesse en ce qui concerne la parole et la connaissance. Et les dons divers et distribués par l'Esprit de Dieu naissent par quoi ? Par le fait qu'ils soient comblés de richesse en ce qui concerne la parole et la connaissance. C'est pour ça que c'est une faveur, une grâce. Vous ne l'obtenez pas comme ça parce que vous voudriez l'avoir. C'est la grâce de Dieu de nous enseigner sa connaissance, sa parole. Et le but, c'est quoi ? Il nous a fermé dans le témoignage, verset précédent, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. C'est le but de l'enseignement, c'est le but des dons. Et c'est pour ça qu'il ne manque aucun don. Pourquoi ? Pour pouvoir témoigner de Christ et qu'il soit solidement établi au milieu de l'assemblée. Si l'assemblée est riche en paroles et en connaissances, et que Christ est témoigné dans la vie de chacun, tous les dons utiles à l'œuvre se manifesteront. Il ne s'agit pas de mettre en avant les dons, mais plutôt le témoignage qui a été établi par la parole de Dieu. Les dons ne sont que la manifestation de l'Esprit qui mettent en évidence une vérité déjà vécue. Et parfois le problème, c'est que on cherche plutôt à faire paraître les dons. Et si la racine de don, c'est charisma, ça donnait un autre mot, charismatique. Et quelqu'un de charismatique, déjà, c'est quelqu'un que on voit peu ou beaucoup. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui est manifestement remarquable. Une personnalité, on pourrait dire, dans le contexte ici, plus visible que son maître. Dans le monde chrétien, il peut exister aussi des charismatiques, des personnes qui sont plus connues pour leurs dons que pour le témoignage de Christ dans leur vie. Ceux qui cherchent plus les dons pour se faire remarquer plutôt que d'amener le témoignage de Christ pour qu'il soit vu de tous. Car même si on parle beaucoup de dons dans le chapitre 12, l'accent, je le répète, n'est pas sur le don, mais c'est sur celui qui le donne. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Et pourquoi il y a un mais? C'est pour dire, c'est bien tous ces dons, mais d'abord il y a un seul quoi? L'esprit. Et depuis le début, l'enseignement, l'exhortation, c'est d'avoir un même quoi? Un même esprit. C'est pour ça que ce n'est pas le don qu'il faut regarder, mais celui qui donne. C'est pour ça que le témoignage à rendre, ce n'est pas nos dons, mais celui qui donne aussi le témoignage de Christ. Et on peut revenir sur ce passage, 1 Corinthiens, chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Unis dans un même esprit ne veut pas dire tous identiques. Dans l'Église, c'est la diversité, une diversité de dons. Une diversité, nous dit le verset 5, de ministère. Une diversité, nous dit le verset 6, d'opération. Pourtant, la diversité est censée ramener à quoi? À l'unité. Nous, dans un monde où on se dit que pour être un, il faut tous faire la même chose. Et c'est ce qu'enseigne ici, dans ce livre, c'est qu'il y a une diversité de choses. Il ne donne pas le détail. Mais il dit qu'il y a, par contre, une même personne toujours derrière. S'il y a diversité de dons, l'accent est mis sur quoi? Sur celui qui donne un don particulier, le Saint-Esprit. S'il y a diversité de ministères au verset 5, l'accent n'est pas mis sur le verset 5. L'accent n'est pas mis sur le ministère, le service, mais c'est sur celui que l'on sert. S'il y a une diversité d'opérations, l'accent n'est pas mis sur l'opération, mais sur celui, verset 6, qui opère tout en tous. Mais le problème, lorsque l'on cherche à être charismatique, c'est qu'on met l'accent sur le don, sur le ministère et sur l'opération. Et on se dit, c'est avec ça que nous sommes des gens spirituels. Mais non, être spirituel, c'est d'avoir le même esprit, le même Seigneur et le même Dieu qui agit tout en tous, qui opère tout en tous. Et une église qui en voit spirituel, c'est qui est un en voyant quoi? Que tout est opéré par le même Dieu. Que le centre, c'est le même Seigneur. Que celui qui distribue, c'est le même esprit. C'est notre force. Ce n'est pas l'individualité, c'est la diversité dans le corps de Christ. Pourquoi insister sur ces faits? Parce que le problème des Corinthiens et le problème dans les églises, c'est que, on l'a dit, on met l'accent au mauvais endroit. Les gens cherchent ce qu'ils pensent être les meilleurs dons, les plus charismatiques. Les gens cherchent ce qu'ils pensent être le meilleur ministère, les plus visibles. Les gens cherchent ce qu'ils pensent être les opérations les plus divines, les plus spectaculaires. C'est pas ça dans les églises où le charismatique est le plus accentué? Mais dans ces trois cas, qui sera glorifié? Le plus charismatique, le plus visible et le plus spectaculaire. Mais rappelez-vous, dans le premier chapitre, tout était déjà là, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire que si vous devez avoir une quelconque gloire, c'est le Seigneur. Et c'est dedans. Et ce n'est pas quelqu'un qui a un charisme au-dessus des autres et qui va être plus visible et qui va être plus spectaculaire. Mais lorsque l'on devient charismatique, on met en avant ce spectaculaire, cette visibilité. On ne voit plus celui qui opère tout en tous, Dieu, mais celui qui se distingue des autres. On ne voit plus l'unité, mais le concours du meilleur don dans l'Église. Qui sera le meilleur prédicateur ? Paul, Céphas ou Apollos ? Qui fait les plus belles prières ? Qui sera le meilleur chanteur ? Qui est le plus accueillant ? Ça devient ça, le meilleur don, et ce n'est plus celui qui est glorifié, le Seigneur, qui va être mis en avant, mais ça sera nous. Comme si ce n'était pas le même esprit qui distribuait ces dons immérités à chacun, comme il le veut. Comme si ce n'était pas le même Seigneur qui appelait chacun à un ministère selon son bon vouloir. Comme si ce n'était pas le même Dieu qui opérait dans la vie de chacun. Ne glorifions uniquement que celui qui opère tout en tous, notre seul Dieu. En effet, l'Esprit nous distribue ses dons pour ce qu'il estime être utile dans nos églises. Toutes les églises n'ont pas les mêmes dons, mais si la parole est enseignée, il ne manquera rien pour que nos églises soient édifiées. Toutes les églises n'ont pas les mêmes dons. Ce que vous savez, d'une église à une autre, vous allez trouver des dons chez des gens dans une église qu'on n'en a pas chez nous. Mais est-ce qu'ils étaient utiles pour nous ? En tout cas, peut-être pas à ce moment-là. Et on a l'exemple ici des Corinthiens. Le verset 7 nous explique clairement, on peut continuer, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire qu'ici, ça ne sert pas à tout le monde, il n'y a aucune raison que ça soit manifesté. Aucune. Et comment l'Esprit se manifeste dans l'Église locale, il donne à chacun pour que ce soit utile aux autres. Si un don n'est pas utile, il n'apparaît pas dans l'Assemblée. Et dans la suite, le reproche aux Corinthiens, c'est que les Corinthiens cherchaient absolument des dons, non pas pour que ce soit utile à l'Église, mais pour que ce soit utile à qui ? À eux-mêmes. Pour qu'ils soient mieux vus. Et ils ne choisissaient pas les dons les moins spectaculaires. Ils choisissaient les plus spectaculaires. Ceux qui étaient vus de tous. C'est ce que vous verrez dans la suite. Mais c'est une manière de voir qui oublie la raison pour laquelle nous avons des dons, pour l'utilité commune. Quand donc nous lisons les prochaines lignes et chapitres de ce livre aux Corinthiens, posons-nous la question, pourquoi certains dons ne sont plus utilisés à ce jour ? La réponse est juste, il n'y a plus d'utilité commune. Mais à l'époque des Corinthiens, c'était primordial pour établir le témoignage de Christ. Et on va lire ces dons dont avaient besoin les Corinthiens et qui étaient là. En effet, verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et on continue au verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est pas comme nous voulons même, c'est comme il veut. Mais il y a des choses qui sont toujours utiles aux églises. Et on peut revenir sur ce verset 8. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, chaque église a reçu ça. Et vous pouvez avancer. La foi, au verset 9. Et même le don des guérisons. Souvent, quand on pense guérison, les gens pensent une guérison physique. Il ne faut pas confondre guérison et miracle. Le miracle, il va en parler après. Mais vous savez que dans les églises, il y a des pasteurs et docteurs. Pourquoi on utilise le mot docteur ? Ils soignent quoi, à votre avis ? Ils soignent vos âmes. Et quand Jésus parle et quand il dit que de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il parle de quoi ? De notre problème physique ? Non. On parle d'une âme qui a besoin d'être guérie. Et il faut ça dans les églises. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs et docteurs. Leur rôle, c'est de guérir les âmes. Et ça ne changera pas. Et ça existera toujours. Mais nous confondons toujours les miracles et la guérison. Et ça, ce sont des ministères qui existent toujours. Mais il y a des ministères qui sont propres aux Corinthiens. Je vous rappelle juste le contexte. Les Corinthiens n'ont aucune lettre, voire deux. La lettre aux Corinthiens. Donc il y a des choses que nous connaissons parce que c'est complet. Tout est dedans. Et c'est écrit qu'il n'y a plus rien à rajouter. Mais est-ce que c'était vrai à l'époque des Corinthiens? On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À quoi servent les miracles?
À manifester quelque chose.
À manifester quelque chose, oui. Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours des miracles quand un prophète, comme Moïse, comme les apôtres, arrivait? Comment vous saviez que ces hommes-là venaient de Dieu? Ça sert à quoi? Les signes et les miracles, ça sert à montrer que ces personnes agissent selon qui? Selon Dieu. Quel miracle, diront les Juifs, fais-tu pour que nous croyions en toi? Et quand Jésus est arrivé, ils lui ont posé la question, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Et quand les apôtres arrivent, mais comment on sait qu'ils viennent de Jésus-Christ? Quel miracle fais-tu pour que nous croyions en vos paroles? C'est pour ça que les miracles ont été donnés à faire par qui? Par les apôtres. Et c'est pour ça que c'est important à cette époque-là. Comment savez-vous que c'était vraiment des apôtres? Ils étaient capables de faire quoi? Des miracles. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de prouver que c'est l'écriture des apôtres et que ces paroles viennent de Jésus-Christ? Qui ne le sait pas? C'est juste qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais on le sait tous. Quelle est donc l'utilité de mettre un miracle ici? Quel signe est nécessaire? On a déjà cette connaissance que c'est la parole de qui? La parole de Dieu. Mais quand on avance, c'est pareil. La prophétie, c'est d'annoncer les choses qui sont cachées. Mais est-ce qu'il y a encore des choses qui sont cachées? Tout est déjà révélé. Alors pourquoi il y aurait besoin du don de prophétie? Quand on parle du discernement des esprits, quand vous avez besoin de savoir si cet esprit est de Dieu ou pas, vous contentez de regarder selon la parole, est-ce que c'est conforme à la parole ou par la parole? Nous avons déjà ce qui est parfait pour ne plus avoir à ajouter ces choses qui sont partielles, dont il va parler plus tard. Partielles pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toutes la connaissance. Ils n'ont pas toutes les prophéties. Et cette parole, elle n'était certainement pas traduite dans toutes les langues. C'est pour ça qu'il y a aussi un don qui est une diversité de langues et un autre, l'interprétation des langues. Elles avaient leur utilité. Ce n'étaient pas des dons juste là qui tombaient parce que tiens, quel don je vais avoir aujourd'hui? Allez, je distribue au hasard quelque chose. Ils avaient une utilité. Et si nous avons des dons dans l'Église, elles ont toujours une utilité. Mais pourquoi nous n'avons pas ces dons dans l'Église? Est-ce qu'aujourd'hui elles nous sont utiles? Est-ce qu'elles vont édifier l'Église? Est-ce qu'elles vont permettre d'amener quelque chose que nous n'avons pas déjà dans la parole de Dieu? Pas du tout. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Donc l'esprit sait ce qui est nécessaire, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que ça veut dire que c'est systématiquement dans les églises, il va distribuer toujours les mêmes dons? Il va dire quoi? C'est comme il veut. C'est pour ça que nous devons respecter tous les dons qui sont dans l'Église et qui sont visibles. Quel esprit se manifeste dans nos ministères? Si c'est celui qui opère toutes choses, nous devons apprendre à accepter les dons qui se trouvent dans nos églises. Lorsque chacun d'entre nous acceptons la distribution de Dieu, la souveraineté de Jésus-Christ dans l'appel au ministère, selon la part qu'il a voulu donner à chacun, l'Esprit se manifestera en tous par des dons utiles pour tous. Les Corinthiens recherchaient les dons et les ministères bien au-delà de la soumission à Dieu et au Fils. Et c'est ce sur quoi Paul va les reprendre. C'est aidez-moi, je veux. Moi, j'aimerais ce don. Et il va leur dire, mais que tous ne se mettent pas à quoi? À utiliser des dons qui ne sont pas les leurs. Et il va citer plusieurs dons. Pourquoi tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils... Il va citer, mais non. Chacun a ses dons. Et le don de chacun est utile à tous. C'est la souveraineté de Dieu que de distribuer les dons à qui il veut. Et il fait toujours les meilleurs choix. Pour ceux qui sont unis parfaitement en son esprit, qui vivent en communion avec le Père et le Fils, il n'y a ni rivalité, ni jalousie, mais seulement un but d'édification pour ce qui est précieux aux yeux de Christ, pour son corps. Mais quand les rivalités naissent, c'est parce que les gens envient quoi ? La place des autres, le don des autres. Les dons de l'esprit sont pour l'utilité commune et d'abord celle des autres, mais au final, bien sûr, la nôtre. La manifestation de l'esprit est quelque chose, comme il est dit, venant manifestement de l'esprit. Et comment savoir si un don est manifestement de l'esprit ? Eh bien, de la même manière qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Le fruit de l'esprit, ce ne sont pas les dons. Il distribue des dons. Mais ce ne sont pas les dons, le fruit de l'esprit. Les dons sont distribués comme il lui plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est d'abord quoi ? Et c'est pour ça que vous allez voir dans la suite, dans le prochain chapitre, qui va traiter le don de l'esprit. C'est d'abord quoi ? L'amour. L'amour, mais on sait que cet amour, c'est un fruit. Elle donne aussi d'autres choses, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et quand on verra une personne qui est manifestement agissant selon l'esprit, ce n'est pas par rapport à ses dons. C'est par rapport à ce qui est manifeste de l'esprit dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va dire la vérité dans l'amour. Qui va le dire selon qui ? Selon le Saint-Esprit. On peut avoir du savoir-faire, une capacité naturelle. Mais si on parle de don, et un don n'est pas un savoir-faire. Un don, c'est comme ça le dit, c'est quelque chose que vous ne saviez pas faire, et ça vous a été donné. Donc ce n'est pas quelque chose à laquelle vous vous êtes entraîné pendant des années, et vous dites maintenant que je suis chrétien, ouf, c'est ça que je vais utiliser pour l'œuvre. Pas du tout. C'est un don. Donc vous ne l'aviez pas. Et c'est ce qui différencie un don d'un talent. Vous pouvez avoir un savoir-faire qui est utile pour l'Église, mais ce qui est vraiment utile pour le corps, c'est le don du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui est uniquement opéré, manifeste dans cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, cette bienveillance, cette foi, cette douceur, cette maîtrise de soi. Si on n'aime pas, les vrais dons de l'esprit ne peuvent pas apparaître. Ils ne seront pas manifestes. Si ce n'est pas pour l'édification, il s'agit juste d'une connaissance qui enfle un savoir-faire par la force des hommes, inutile à Christ et à son œuvre. Et c'était le problème des Corinthiens. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas faire des choses. Ils avaient sûrement fait beaucoup de choses. Et certains étaient même plus remarquables que d'autres. Mais là, on voit que ça a amené plus l'édification ou la destruction de leurs propres églises. La destruction. Et c'est le problème des Corinthiens. Ils ne portaient pas le fruit de l'esprit, mais celui de la chair, division, querelle, rivalité. Les Corinthiens cherchaient à tout prix à se distinguer par leur sagesse dans leurs paroles, par leur connaissance, mais apparemment aussi par leurs dons. Une attitude qui montre qu'ils ne sont pas conformes à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ. Si nous sommes conformes à l'esprit de Christ, notre service sera pour Christ, pour l'utilité commune. Et pour conclure, j'aimerais poser des questions. Qu'est-ce qui est manifeste dans notre Église ? Est-ce que ce sont nos pratiques, nos dons, ou l'assurance que l'Esprit de Dieu opère dans ce lieu ? Chacun ayant pour fruit un amour qui édifie le corps. Chacun ayant un ministère qui cherche l'intérêt des autres. L'image des Corinthiens était une Église en division. Mais les pratiques étaient pourtant là. On l'a vu, chacun amenait sa sagesse. Peut-être des bons versets. Il parlait de Jésus-Christ. Il veut connaître la vie théologique de Paul sur beaucoup de sujets, le mariage, le célibat, la viande, sacrifiée aux idoles. Et dans la suite de ce texte, nous verrons qu'ils chercheront une place des dons spirituels, ce qu'ils pensaient être les plus spirituels. Mais l'image finale, c'est qu'ils voulaient leur part et non celle que Dieu voulait distribuer, pensant chacun à soi. Ce qui était manifeste, ce que Paul a appris de leur sujet, ce n'était pas l'amour qu'ils portaient les uns pour les autres, mais c'était quoi ? Des disputes au milieu d'eux. Chacun parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Manifestement, le corps est divisé. Manifestement, il y a des disputes. Pourquoi ? Chacun parle de son côté, pour son côté, et non plus pour édifier. Ils veulent assembler les gens, pourquoi ? Pour un parti. Est-ce là la manifestation de l'Esprit ? Est-ce la puissance de Dieu que nous affichons ? Que notre attitude transformée à l'image du Fils manifeste le don que nous avons reçu. L'Esprit de Dieu qui a pour fruit l'amour qui édifie l'Église selon la force ou l'activité que Dieu distribue à chacun. On peut lire le verset 12. Car comme le membre a plusieurs, le membre est un et a plusieurs membres, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si c'est ce qui est en Christ, qu'en est-il de nous, de notre Église ? Malgré notre nombre, est-ce que nous formons un seul corps ? Témoignons-nous de Christ par les dons qui sont distribués pour édifier les autres, ou témoignons-nous de nous-mêmes par notre savoir-faire qui cherche à nous distinguer au-dessus des autres ? Ce sont les questions auxquelles nous devons répondre. Mais nous savons tout que celui qui doit être glorifié, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors rendons-lui gloire dans notre vie. Que l'amour de Dieu soit visible. Tel est le don qu'il nous a donné. Prions. Amen. Oui, Seigneur, lorsque nous regardons à toi, lorsque nous regardons à ce que tu fais, lorsque nous regardons à ta sagesse, à tes décisions, à ta parole, nous ne pouvons qu'accepter qu'une chose, c'est que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais, Seigneur, que nos cœurs sont souvent attirés. Attirés par quoi ? Ces idoles muettes, vers lesquelles nous courons, parce que nous souhaitons parfois, eh bien, ces convoitises qui sont dans nos cœurs, faire ce que nous désirons et ne plus te suivre. Mais Seigneur, tu nous reprends, tu nous censures, tu nous exhortes. C'est ton amour de ne pas nous laisser. Seigneur, oui, sois notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur de notre vie. Et Seigneur, je te prie vraiment que ces paroles, ces mots, ces dons qui apparaissent dans l'Église soient toujours utiles à toi. Que ce soit l'amour qui soit vu, qu'il n'y ait pas de paroles, de murmures, Seigneur, mais plutôt des paroles d'édification. Qu'il y ait, Seigneur, des mains qui soient là pour aider les autres, pour servir. Et Seigneur, je sais que tu donnes, tu distribues à tous et tu opères en tous. Que chacun, Seigneur, puisse voir ces dons qui sont donnés par ta parole, Seigneur. Et que chacun, Seigneur, puisse être dans la joie de servir, dans la joie d'être dans le ministère pour lequel tu les as appelés. Merci en tout cas, mon Dieu, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Cette Église, Seigneur, c'est ton Église, l'Église de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui en est le Seigneur. C'est Jésus-Christ crucifié que nous voulons regarder, mais pas juste celui qui est crucifié, mort, maudit, mais celui qui a eu la victoire sur la croix. Celui qui permet aujourd'hui que l'on puisse se dire, ce péché, eh bien, n'est plus celui qui me rend esclave. Je suis esclave de Jésus-Christ et non pas du péché. Merci pour cette délivrance. Merci parce qu'être ton esclave, c'est être dans la joie, dans l'amour. Il n'y a pas de contraintes, mais au contraire, il n'y a que de belles choses. C'est cette vie éternelle. Auparavant, nous savons que nous étions prisonniers dans le malheur, que nous étions toujours en train de nous nuire, de nous détruire dans les rivalités. Mais Seigneur, tu nous donnes ta paix. Que cette paix soit sur cette Église, que ta paix, Seigneur, puisse remplir ce lieu, afin que tous, Seigneur, puissent être unis autour de toi et te louer dans la joie. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. C'est en Christ cette prière. Amen. Amen.